L'émission suivante est également publiée sur notre blog Un héros dans le net. Rendez-vous dans la section commentaires pour joindre la discussion.
Aujourd'hui à l'émission Parole à propos, nous discutons de la violence dans la Bible. Bonjour, bienvenue à Parole à propos. Mon nom est Pascal Deneau et aujourd'hui je suis en compagnie du pasteur Jacques Pelletier que vous connaissez bien, qui anime également cette émission assez régulièrement. Bonjour Jacques.
Bonjour Pascal, vous allez bien?
Oui, ça va bien. Chez vous aussi?
Oui, très très bien. Oui, merci.
Fait beau à Québec?
Il fait très beau à Québec. C'est vraiment le printemps.
Bon, ben ici aussi, c'est pas le printemps arabe, là, c'est le printemps tout court.
On espère.
Oui, on apprécie également. Il est un peu tôt cette année, mais ça fait du bien. Alors, vous devez savoir, chers auditeurs, que donc ces fois diffusent à Saint-Jérôme et à Québec, ou devrais-je dire plutôt à Québec et à Saint-Jérôme. Et donc, on est dans nos studios respectifs, et puis donc on se parle par la magie de la technologie. On peut enregistrer cette émission. Alors aujourd'hui, le sujet de notre émission, c'est sur la violence dans l'Ancien Testament. Ça nous vient, en fait, le sujet nous est venu d'une question d'un auditeur, et pour lancer la conversation, je vais tout simplement lire la question de cet auditeur qui voulait donc qu'on aborde. Alors il écrit la chose suivante. En lisant les récits de Josué, notamment la bataille d'Aï, je n'arrive pas à comprendre une telle violence de la part de Dieu. Comment, selon 2 Timothée 3:16, peut-on arriver à conclure que ces récits sont inspirés de Dieu, un Dieu qui semble ne pas être le même que celui du Nouveau Testament? Et comment lire l'Ancien Testament aujourd'hui concernant les guerres, les récits de massacres, la polygamie, tout ce qui, aujourd'hui, serait condamné par le bon sens et l'opinion internationale? Fin de la citation. Alors, on va pas répondre nécessairement à toutes les sous-questions et toutes les considérations qui sont là, mais s'adresser spécifiquement à la question de la violence dans l'Ancien Testament et plus précisément celle de la conquête sous Josué. D'abord, pasteur Pelletier, est-ce que le bon sens de l'homme moderne et l'opinion internationale peuvent être normatifs selon vous?
Je ne pense pas, Pascal. Ok, je pense que ce qui est normatif, premièrement, c'est ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit lui-même. Ok, et je pense qu'il faut avoir comme présupposé de base, justement, ce que la révélation déclare sur Dieu, à savoir que Dieu est justice et amour. Ok, il est amour et justice, justice et amour, et c'est ce qui conduit justement ses actions, ou du moins, c'est ce qui est à la base de ses commandements.
Oui, et c'est important de réaliser ça, que l'homme moderne, aussi civilisé qui peut paraître à ses propres yeux, en fait l'Écriture dit que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, à ses propres yeux. L'homme considère que ce qu'il pense est correct, qu'il fait bien de penser ainsi, qu'il fait bien d'agir comme il agit, mais l'Écriture ajoute « celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel ». Alors, l'homme peut pas être jugé parti, peut pas juger lui-même de sa conduite, et peut certainement pas juger de la moralité de Dieu et de la parole de Dieu. Il peut pas être le juge de Dieu. C'est le contraire qui est vrai.
Effectivement, il n'en demeure pas moins que malgré tout cela, il y a quand même des cas où même au point de vue international, on croit qu'il faut agir, réagir. Parfois même, on croit qu'il y a des guerres qui sont tout à fait légitimes et qu'on veut une ongle, quelle que soit l'ampleur de cette guerre, il y a toujours une forme de violence dans la guerre. Je pense qu'on ne peut pas parler de guerre sans violence. Mmh. Et même si bien sûr l'opinion moderne n'accepte pas nécessairement ce qu'on retrouve dans les Écritures ou ce qui s'est déjà fait par le passé, et tout ce qui est fait dans le passé n'est pas nécessairement bon non plus, là. On reconnaît quand même qu'il y a une place pour une certaine forme de violence, pour ne serait-ce que pour mettre fin au mal et à des violences injustes et excessives.
Oui, ben dans un monde de Genèse 3, c'est-à-dire un monde dépravé, la violence est inévitable quelque part. Mais le point que je voulais souligner surtout, c'est que l'opinion de l'homme moderne, elle est partiale, parce que l'homme, autant il peut condamner certaines choses qui lui apparaissent immorales, bien il accepte plus que n'importe quel homme avant lui que le sang innocent soit versé. Je pense à la question de l'avortement, par exemple. Alors le point que l'opinion de l'homme moderne peut pas être le critère ultime et final. Il y a une autorité au-dessus de ça.
Tout à fait d'accord avec vous, Pascal.
Alors, je pense que pour donc en venir plus spécifiquement à la question, une première chose qu'il faudrait expliquer pour l'auditoire, pour comprendre cette question de la violence dans la conquête, d'abord, c'est la nature même de l'ancienne alliance. Qui n'était pas comme celle de la Nouvelle Alliance. Parfois, quand on regarde ces récits-là de guerre et qui quelque part étaient commandés par Dieu, on le compare au mariage entre l'Église et l'État au temps du Moyen Âge et aux abus que ça l'a engendré. On pense aux croisades, à l'Inquisition et des choses comme ça. Mais quand on tient compte de la véritable nature de l'ancienne alliance, bien on voit que c'est pas l'équivalent de ce qu'on a pu voir comme abus au Moyen Âge, parce que l'ancienne alliance était de nature civile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ben tout à fait, Pascal. C'est important de faire la différence. J'aimerais aussi ajouter, Pascal, le fait que dans l'Ancien Testament, là, effectivement, qu'on le veuille ou non, là, ça serait difficile de le nier, je pense. Il y a bien sûr de la violence qui nous est présentée. Ça ne veut pas dire que Dieu sanctionne toute forme de violence dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, Dieu défend certaines formes de violence, même s'oppose à certaines formes de violence, à des injustices, n'est-ce pas? Et il y a aussi des textes. Là, on parle pas nécessairement de la conquête, mais des textes où il nous est laissé à nous, le lecteur, le soin d'interpréter si même celui qui agit en bien ou en mal, ok, lorsqu'il a posé un geste violent. Alors, il faut faire attention, il y a une question d'interprétation. Maintenant, effectivement, lorsqu'on parle de l'Ancienne Alliance, lorsqu'on parle de manière toute particulière du peuple d'Israël, il faut bien comprendre ici que, en fait, la religion et l'État étaient liés ensemble, ok? Oui. Et donc, c'était aussi le devoir de l'État de faire régner la loi, même la loi divine, donc, et donc de sanctionner aussi, hein, donc, toute transgression de cette loi. Et donc, et si la religion et l'État sont liés ensemble, bien, toute la question aussi de la guerre aussi, ou même de toute l'histoire de la conquête, bien, qu'on le veuille ou non, ça demeure lié ensemble, ok? Ce qui est très, très différent dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, l'Église a demeuré séparée de l'État.
Okay? Henri Blocher dit quelque chose d'intéressant. Il dit « Les armes doivent correspondre à la nature du combat. » Quand on est dans un combat d'une nature spirituelle, les armes peuvent pas être charnelles, elles doivent être spirituelles, ce qui est le combat de l'Église. Alors c'est pourquoi on peut pas prendre le pouvoir civil pour avancer la cause de l'Église, mais la cause d'Israël était une cause civile dans sa nature, et les armes charnelles, les armes physiques, étaient tout à fait conformes donc à la nature de ce combat, et étaient donc légitimes. C'était légitime pour Israël de faire avancer la cause par la force militaire.
Voilà, et il était tout à fait légitime comme nation, justement, qu'Israël se défende, même du point de vue militaire, tout comme il est légitime pour une nation présentement, lorsqu'elle est agressée de façon injuste, de se défendre aussi. Ok? Et il était légitime, encore une fois, que le pouvoir en Israël, puisque c'était la volonté de Dieu, tel que ça a été révélé, que le pouvoir réponde aussi par une certaine force lorsqu'il y avait transgression de certains commandements de Dieu ou certains crimes qui étaient commis en Israël.
Ben ça l'amène, je pense, au deuxième point pour expliquer, pour en quelque sorte justifier la conquête sous Josué. Donc le premier étant d'abord la nature civile de l'ancienne alliance, mais le deuxième point, c'est que cette conquête-là est présentée sous forme de sanctions contre les nations cananéennes. Et lorsqu'on connaît un petit peu l'histoire de ces nations-là, on se rend compte que ces sanctions-là étaient tout à fait légitimes, étaient valides, étaient même souhaitables. D'ailleurs, l'Écriture dit, on lit dans le Deutéronome, au chapitre 9, verset 4, votre téléphone sonne un petit peu. Alors, c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Il se commettait donc dans les nations cananéennes qui vont être conquises, des choses vraiment monstrueuses. Faut pas les voir comme des victimes passives qui vivaient simplement, paisiblement, sans. Il y avait vraiment des crimes, de la pédérastie, de l'injustice, de l'inceste, des pratiques de l'injustice du matin au soir. Et c'est le principe que on moissonne ce qu'on sème. Le Lévitique dit que les habitants de la terre promise qui agissaient de la sorte que le pays allait vomir ses habitants. Alors, c'est les conséquences de ce qu'on nos actions, c'est une loi naturelle, on pourrait dire. On moissonne ces conséquences-là et il faut voir Israël comme un instrument de la justice divine pour punir et sanctionner et encore aujourd'hui pasteur Pelletier, hein, on voit ça le peut-être pas dans des combats de même nature, mais on fait des sanctions militaires contre des pays lorsqu'ils agissent lorsqu'ils persécutent leur population il y a donc de l'injustice.
Ouais. Effectivement, Pascal, et c'est important de bien souligner que les mœurs de ces nations-là étaient dépravées. Et il nous est dit dans le livre de la Genèse, hein, lorsque Dieu a parlé à Abraham, qu'il lui a annoncé que sa descendance posséderait donc cette portion du monde, c'est la terre promise, il lui a dit que l'iniquité de ces nations-là n'était pas encore arrivée à leur comble. Dieu n'a pas agi de façon arbitraire, là. Dieu agit à partir de sa justice. Deuxièmement, on apprend que Abraham lui-même, donc était un juste, donc un croyant en Dieu, donc a habité au milieu des Cananéens comme un grand témoignage, hein, je suppose même que les promesses faites à Abraham jusqu'à un certain point ont été connues autour de lui. On sait qu'à son époque il y avait un roi, le roi de Salem, Melchisédek, qui était un croyant, un sacrificateur de Dieu. Ça veut dire que il y avait eu une certaine connaissance de Dieu dans ces nations-là. Et une nation, bien sûr, une connaissance qui a été rejetée. Donc, Dieu n'agit pas n'importe comment, bien sûr. Dieu n'agit pas de façon aveugle. Dieu agit toujours à partir de sa justice.
De la lumière qui a été reçue.
Et il y a une lumière qui a été reçue, bien sûr, de la part de ces nations-là. Et Dieu n'a pas demandé à Israël de détruire toutes les nations du monde. Seulement, ces quelques nations, Dieu les a choisies pour un but, bien sûr. Et Israël n'avait pas de droit intrinsèque, hein, d'aller en guerre. C'est vraiment ici quelque chose en rapport avec le décret souverain de Dieu. Dieu qui est roi de toute la terre, Dieu qui est roi de toutes les nations, Dieu qui est le créateur, qui est le législateur. C'est lui, hein, qui est comme la cour suprême, en fait, de l'univers, qui, selon sa justice, a donc mandaté Israël d'aller et de conquérir la terre promise. Et de ce fait, bien sûr, il a fallu qu'il fasse un certain ménage.
Et rapidement, en terminant, il faut absolument qu'on mentionne également que dans ce jugement, parce que ces interventions, cette conquête, c'est un jugement divin dont Israël est l'instrument, il y a également la miséricorde divine qui est présente dans le jugement. On le voit donc d'une part, il y a des textes dans le Deutéronome qui prévoyaient que lorsque Israël allait s'approcher d'une ville pour y établir un siège et lui faire la guerre, Israël devait d'abord proposer la paix à cette ville. Bien, ça s'appliquait aux villes qui étaient à l'extérieur de la terre promise principalement, mais il reste néanmoins que il y avait une offre de paix, et cette offre-là impliquait, c'était un appel à la repentance, à la conversion.
Voilà.
Donc avant que le jugement vienne. Mais on voit d'autres exemples, n'est-ce pas, pasteur Pelletier, pour nous parler de l'histoire de Rahab, pour ceux qui sont moins familiers.
Ben, c'est une histoire tout à fait extraordinaire, exceptionnelle. Rahab qui habitait à Jéricho, donc une ville qui avait été dévouée par interdit, donc qui devait être détruite. Mais il nous est dit que lorsque Josué a envoyé des espions, n'est-ce pas, pour prendre connaissance donc un peu de ce qui se passait dans cette ville-là, et pour le moment pour voir là, en ce qui concerne les murailles, comment est-ce qu'elle était fortifiée, tout cela et gardée. Eh bien, ils ont été caché par une prostituée qui s'appelait Rahab. Et cette femme-là, de toute évidence, a démontré une foi réelle dans le Dieu d'Israël. Et en raison de cela, parce qu'elle s'est confiée en Dieu, elle a été épargnée. Donc, on voit que si Dieu a voué par interdit des populations, si Dieu a envoyé son peuple pour les détruire, c'est vraiment parce que ces populations-là s'étaient détournées de lui, parce que Dieu est prêt à faire miséricorde à quiconque se tourne vers lui. Et on voit cet exemple-là qui est extraordinaire, qui est non seulement d'une Cananéenne, mais d'une Cananéenne qui vivait de la prostitution.
Effectivement, et c'est d'autant plus étonnant de la retrouver dans la généalogie du Christ, dans les évangiles. Rahab est mentionné, bon, est-ce que c'était la Rahab en question? Beaucoup de biblistes vont vous dire que c'est bien le cas.
Et j'ajouterais parce que tout l'Ancien Testament et même l'histoire de la conquête ont pour but de démontrer le sérieux du péché. Que cela amène bien sûr le juste jugement de Dieu, mais en même temps, effectivement, comme vous l'avez mentionné, Pascal, nous pouvons aussi déjà discerner quelque chose de la miséricorde de Dieu. Le fait que Dieu est prêt à faire miséricorde à quiconque se tourne vers lui et est prêt à se repentir de ses péchés.
Mmh. On va s'arrêter ici, mais au retour, on va poursuivre avec cette discussion et montrer que la conquête de Canaan n'était pas seulement un événement isolé localement dans l'histoire de l'Antiquité qui n'a aucun lien avec nous aujourd'hui, mais que ça a une portée universelle, qu'on est interpellé par cet événement. Alors, on va essayer d'expliquer, Pasteur Petit et moi-même, comment est-ce qu'on est concerné donc par cet événement. On se retrouve immédiatement après cette pause musicale.